planter le décor et puis voilà, 45 minutes, question comprise.
Bonjour, merci de me recevoir. Je m'excuse d'être arrivé en retard, c'était juste le premier train n'arrivait qu'à cette heure-là, ouais. De Paris. Je viens de Paris et pas de Toulouse, ce qui est moins loin. Je suis maître de conférence en design à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et donc j'y reviendrai là dès le début, mais j'ai passé une thèse en esthétique en 2014 à Paris 1 Sorbonne. Du coup, je m'exprime ici non en qualité d'histoire des sciences, donc je serai incapable ni d'épistémologue, ce serait peut-être encore pire, ni de philosophe, mais bien en qualité de chercheur en design, voilà, pour situer mon ancrage. Alors, point de départ de la réflexion que je vais vous poser aujourd'hui, plusieurs recherches récentes autour du chercheur Lev Manovitch, qui est, disons, artiste et théoricien des médias. Si vous ne le connaissez pas, j'y reviendrai dans la dernière partie de la conférence. Quelques recherches aussi autour du statut des images techniques, ou plus précisément des images numériques. L'ancrage dans un comité scientifique autour d'Annelise Renon, autour du travail de Jacques Bertin, dont Annelise n'a pas parlé, mais j'y reviendrai un petit peu dans mon intervention. Et puis des recherches continues entre design graphique, programmation numérique, ce qui était l'enjeu de ma thèse de doctorat. Alors, d'où je suis parti pour cette intervention, de plusieurs choses. D'une part, essayer, donc ça c'est les points de départ à mon intervention pour vous situer un peu le contexte.
Juste vous décaler un tout petit peu parce que vous cachez le contexte.
Je vous en prie, c'est mieux là ? Voilà, pas de problème. D'étudier une vieille question en quelque sorte, mais bon, les liens entre la prétention à l'objectivité d'une certaine cartographie, pas toute, et qu'on peut retrouver aussi dans une certaine ambition des technologies numériques à modéliser l'expérience humaine et à supprimer le biais humain, ce que Annelise avait abordé. Dans la deuxième partie de son intervention, par rapport au travail de Jacques Bertin, du coup, que j'ai pu étudier grâce notamment à l'exposition et à la journée d'études qu'il y avait à Paris, de voir comment son travail se prolonge, non sans certains déplacements, dans la visualisation de données, donc voilà, un champ plus contemporain que celui de Bertin. Il ne parlait pas comme ça à l'époque. Peut-être qu'on parlait plutôt design d'information, éventuellement. Quoique même lui, je n'ai pas vu le mot design du tout. Non, c'est plutôt les relectures qu'on peut en faire. Et puis, du coup, de voir par ces deux biais, disons, par ces deux ancrages, cartographie et sémiologie graphique, comment on pourrait relire un champ, disons, très récent, qui a moins de 10 ans, qui sont les cultural analytics de Lev Manovitch, qui se propose de mettre en schéma, ou en patterns, les productions culturelles, mais humaines, mais vraiment dans le sens élargi, hein, productions culturelles, y compris du quotidien, donc ça peut être les selfies d'Instagram, par exemple. Voilà, disons, c'était, j'avais envie, pour vous donner le chemin dans l'autre sens, d'essayer de mieux comprendre les cultural analytics, et pour ça, du coup, la sémiologie et la cartographie me sont apparues comme deux sources pertinentes. D'où la problématique de départ, du coup, en quoi ces deux études, enfin, l'étude de la sémiologie graphique et de la cartographie qui viendrait avant, permettraient d'interroger la prétention des big data à modéliser la complexité des expériences humaines. Ce qui a aussi, il me semble, une grande prétention à l'objectivité dans ce monde de données. Disons que les données parleraient d'elles-mêmes, ce que un chercheur avait appelé il y a quelques années déjà la fin de la théorie. Disons qu'il n'y aurait plus de théorie parce que les données pourraient produire elles-mêmes des modèles de pensée. Ce que je suis pas d'accord avec ça, mais j'y reviendrai à la fin. Je précise que c'est un travail en cours, c'est assez compliqué pour moi, et comme je vous le disais, je ne suis pas historien des sciences ni épistémologue, donc du coup, vous m'excuserez les imprécisions éventuelles, mais comme c'est une journée d'études, je serais content d'étudier ça avec vous. Alors, je vais commencer par remonter au XVIIIe siècle via la cartographie topographique que je me propose de situer comme base de l'objectivité scientifique. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, mais l'objectivité, c'est la du 19e. C'est vrai dans le bouquin de Daston et Gallison. Eux ne parlent pas du tout, à ma connaissance, de cartographie. Ce n'est pas leur question. Ils sont plutôt, comme l'a rappelé Annelise, sur des enjeux d'images produites mécaniquement, notamment dès le début du livre, en fait. Et du coup, pour ça, pour justifier mon détour par la cartographie du 18e, je pars d'un article d'un maître de conférence en cartographie, Henri Desbois, qui, du coup, dans l'article très récent, propose de situer les bases de l'objectivité scientifique dans la cartographie du 18e. C'est ce que je vais vous exposer juste après. Plus précisément, dans la cartographie topographique. Voilà, c'est cet article, L'œil et la toise, l'objectivité cartographique du 18e à nos jours, dans lequel, d'ailleurs, il situe cette question-là par rapport à Daston et Gallison. Je vais passer là-dessus, parce que ça a déjà été dit. Alors, la cartographie comme modèle de vision, ça c'est dans le début de l'article. Du coup, selon des bois, la cartographie topographique incarne ou propose une nouvelle forme de regard et va aussi permettre d'établir une normalisation des pratiques de mesure. On verra ça juste après. En se détachant petit à petit, en cherchant à se détacher de la subjectivité humaine, en tout cas des biais de l'individu, ce qu'avait déjà rappelé Annelies dans les techniques numériques, mais ici on est bien plus loin, au XVIIIe siècle. Desbois montre cette image très connue de D'Alembert, donc qui n'est pas une cartographie topographique, mais qui selon lui obéit au même propos, à savoir du coup d'adopter un point de vue surplombant pour figurer, pour représenter, ou en tout cas pour modéliser l'ensemble des connaissances humaines, donc dès l'encyclopédie en 1751. Donc on voit qu'entre cartographie topographique et cartographie des connaissances, on a un lien direct, qui est d'ailleurs directement énoncé par D'Alembert lui-même dans son discours préliminaire à l'encyclopédie, où il se propose du coup de faire voir d'un coup d'œil l'ensemble des connaissances, et il parle bien de cartes, de façon explicite. Ces cartes particulières seront les différents articles de notre encyclopédie, et l'arbre ou système figuré en sera la bimpe-monde. Donc dès le 18e, le lien du coup entre cartographie disons physique ou du territoire et cartographie mentale est énoncé. On trouve aussi ce point de vue surplombant dans disons dans la littérature disons plus moins scientifique. En tout cas bon c'est plus compliqué chez Jules Verne, mais dans son roman 5 semaines en ballon, voilà, je vole avec la rapidité de l'ouragan, tantôt au plus haut désert, tantôt à 100 pieds du sol, et la carte africaine se déroule sous mes yeux dans le grand atlas du monde. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que le point de vue, du coup, de l'observateur ne peut pas être celui du cartographe, étant donné que la carte est un point de vue impossible. On est beaucoup trop haut pour pouvoir voir d'un seul coup d'œil, il y a toujours cette prétention de surplomber, mais la carte est bien une construction mentale qui, du coup, ne peut absolument pas être le point de vue d'un seul observateur. C'est bien le point de vue omniscient qui intéresse Desbois. Et chez Jules Verne, du coup, par métaphore, la carte devient l'action de ce voyageur en ballon, même si du coup, vous l'aurez compris, c'est impossible d'un ballon de voir l'ensemble du paysage africain. On retrouve ça dans des peintures d'époque, cette idée du coup d'objectivité de la cartographie, en tout cas de précision scientifique, ici dans une peinture de Mercier, où on voit du coup un personnage se pencher sur une carte au premier plan, et du coup la lunette d'observation est mise au même niveau que la carte, de façon explicite, la carte serait aussi exacte que les rayons lumineux du soleil. Alors, on avance un petit peu dans le temps, cette carte très célèbre, ou cette série de cartes plutôt, carte de l'Académie ou carte de Cassini, qui du coup viserait à réduire le jugement individuel, même s'il s'appelle carte de Cassini, c'est bien une œuvre collective, et l'entreprise même de cette cartographie colossale pour l'époque vise à gommer les différences entre les différents acteurs, et d'ailleurs Desbois relate une anecdote où les Bretons se plaignent du peu de considération sur la plantation de leur région, et on leur répond que du coup c'est pas... c'est, en quelque sorte c'est factuel, enfin, c'est la faute du paysage et pas la faute des personnes qui l'ont représenté. Donc réduire le jugement individuel. Ce qu'on va retrouver dans les unités de mesure, qui s'inventent aussi à peu près à la même période, en tout cas la normalisation, donc ce traité germinal, alors il y a plusieurs dates, hein, ça s'étale dans le temps, mais disons en 1795, c'est une étape importante, donc ce décret relatif au poids et aux mesures, qui du coup vise à dégager les mesures des unités humaines. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme point de départ? On va prendre, c'est intéressant, une donnée géographique, donc topographique, un quart de méridien, pour construire le mètre. Le mètre qui est aussi un mot abstrait, qui n'existait pas vraiment avant, et qui est totalement dégagé de toute considération physiologique, humaine en tout cas. Voilà, le mètre étalon, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais je vais passer pour pas trop prendre de temps. Je signale aussi cet ouvrage que je trouve intéressant sur l'histoire de ces normes de Crosby, la mesure de la réalité, la quantification de la société occidentale, et évidemment, la notion de quantification est au cœur des big data que j'aborderai en fin d'intervention. Cet ouvrage aussi montre comment, du coup, les sociétés occidentales se sont imposées au reste du monde par cette normalisation de toute expérience. Selon Desbois, du coup, on va retrouver dans les cartes militaires cette notion de précision et de calcul qui vont en quelque sorte se banaliser. Ils vont devenir ce qu'il appelle transparents, on ne va même plus les remarquer par force de l'habitude. C'est peut-être pour ça que, du coup, Daston et Galison, au 19e, ne prennent pas la peine d'en parler, parce que, du coup, la carte n'est plus le modèle scientifique le plus précis, elle est totalement intégrée dans l'expérience. La carte d'état-major, dans ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir en quelque sorte une double fonction. Elle va prétendre à plus de précision et dans le même temps, la rhétorique de sa représentation va mettre en scène le calcul lui-même. Donc avec surexpressions, des chiffres, des légendes, tout un tas d'éléments visuels qui vont essayer de démontrer ou de prouver sa précision. Donc voilà un des exemples les plus connus, la carte majeure du 19e, qui du coup, la vidéo, je ne vais pas la passer, mais si on regarde dans les détails, on est quand même plus tout à fait dans le même univers que Cassini. Cassini, c'était comme une certaine sobriété en termes d'appareils de lecture, donc notamment des légendes. Dans ces cartes d'état-major, on a tout un appareil visuel qui est plus conséquent. Alors j'avance, on en arrive à, grosso dans le temps, à Jacques Bertin, cette fois, disons, au XXe siècle, comme base de la visualisation de données. Donc je vais passer très vite sur Jacques Bertin pour ne pas trop prendre de temps et arriver plus vite au Culture Analytics. Je précise du coup, donc il a été actif à l'École pratique de hautes études, qui est ensuite devenue le HESS, enfin, en tout cas en partie. Entré dans ces querelles-là. Et du coup, il a exercé pendant près de 50 ans auprès dans le laboratoire de graphique qu'il a fondé, c'est ça, co-fondé ? Je sais pas erreur.
Oui.
D'accord, parfait. J'essaie de rester simple pour pas me tromper. Ça fait l'objet d'une exposition dirigée par Annelise Renon à l'HESS en 2017 avec une journée d'études qui allait autour et une série de workshops pour situer le contexte. Donc la graphique ici mise synthétisée par un de ses collaborateurs et anciens doctorants, du coup, Roberto Gimeno, qui a notamment œuvré sur l'application de la graphique dans l'enseignement à l'école primaire. Donc ici, je vais pas détailler ça, mais nous rappelle les principes de la graphique que sans doute vous connaissez, l'idée de concevoir un système visuel qui soit fondé scientifiquement et qui permette de traiter l'information de façon plus efficace que ce que ne permettaient les anciennes méthodes. D'une optique qu'on pourrait qualifier de structuraliste. Je pense que c'est pas trop fort de le dire. Du coup, cette théorie de la graphique a été notamment analysée par un de ses spécialistes, Gilles Palski, cartographe, qui, du coup, dans l'article récent pour les 50 ans de la graphique, proposait d'une part de rappeler les grands principes de la sémiologie graphique, et d'autre part, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, d'en énoncer quelques angles morts qui vont nous permettre d'extrapoler sur des conséquences qui me semblent intéressantes pour le champ des images numériques. Je vais passer sur les principes de la graphique. Voilà, juste une citation de Bertin. Du coup, définir un critère précis, mesurable, à partir duquel on puisse classer les constructions, définir les meilleurs tri d'informations, et donc ce principe d'efficacité. Donc on est bien dans une mathématisation du visible, mais qui vise du coup une compréhension efficace en un clin d'œil, si je puis dire, de l'information. C'est d'ailleurs le principe de ces objets qu'on manipulait. Hein, chez Bertin, l'image se manipule physiquement, et du coup, ce qui permet de construire l'image ou de la faire comprendre, c'est ce qu'il appelait l'œil du peintre. C'est le titre de la conférence de Gilles Palski lors de la journée d'études, que je trouve assez intéressant, du coup, sur les tensions entre esthétique et science. Vaste question. Palski, du coup, énonce plusieurs biais ou plusieurs angles morts. Un des plus forts, c'est que du coup, c'est marqué ici, selon Palski, je suis d'accord avec lui, une carte a plus qu'un sens littéral, elle développe aussi des significations métaphoriques ou symboliques, et du coup, quid de cette ambiguïté dans la sémiologie idéale que propose Bertin. Est-ce qu'un signe peut toujours renvoyer à un seul sens, pour le dire plus simplement ? Sans doute pas. D'autres angles morts, du coup, développés par Palski, le modèle de la communication qui aurait inspiré Bertin de Shannon et Weaver n'est pas celui dans le visible. Effectivement, le modèle de la communication, dès lors qu'il l'applique à une image avec toutes les ambiguïtés que ça propose, sans doute ne tient plus. J'y reviendrai après sur Harley, quid des valeurs transcendantales et morales dans les cartes. Est-ce que du coup cette scientificité ambitionnée par Bertin ne masquerait pas ces valeurs-là ? L'aspect culturel, ça va ensemble. Et du coup, j'en ai parlé juste avant. Est-ce qu'on peut vraiment essayer de fonder un système logique qui échapperait à l'esthétique ? Est-ce que ce refoulé n'a pas vocation à revenir indéfiniment ? Ça, c'est une question qu'Annelise a déjà traitée, mais que je trouve très intéressante. Est-ce qu'on peut échapper à l'esthétique dans les images scientifiques ? Je ne pense pas, et je pense que tu ne penses pas non plus qu'on puisse y échapper. Alors, on avance dans le temps. La glorification du calcul non humain. Alors, on va poursuivre cette idée d'éliminer les biens individuels et subjectifs, notamment dans la multiplication des productions d'images scientifiques et encore plus dans les images produites par les technologies numériques. Ça a été bien mis en avant, cette question-là, dans cet ouvrage de... J'ai surligné Daston, ben, il y a d'autres auteurs, hein, parce qu'elle était co-autrice du livre sur l'objectivité, qui propose du coup de resituer la différence entre raison et rationalité dans les débats de la guerre froide, et qui, dans la période à laquelle s'invente la cybernétique et du coup l'informatique moderne par conséquence. Montrer du coup qu'il y a un lien logique entre objectivité et informatique. Du coup, s'il est possible de voir dans le travail de Bartin une préfiguration de la compréhension de l'information et de la recherche d'un système logique, après tout, informatique, information, on est dedans. Cette ambition va largement s'intensifier via le développement d'outils de calcul et d'outils de mesure électroniques ou numériques qui, du coup, vont de moins en moins nécessiter, en tout cas c'est leur ambition, d'intervention humaine. Tout à l'heure, Annelise a évoqué la problématique des algorithmes. Est-ce qu'on peut dire qu'un algorithme est dépourvu d'intentionnalité ? Ça, c'est une question compliquée. Moi, il me semble pas, mais on pourra en discuter si vous le voulez. Alors, des références avant de passer dans le numérique assez classiques, les cartes Michelin, je ne pouvais pas ne pas les citer, qui du coup renforcent dans leur rhétorique cette idée de scientificité, l'idée de relief satellite. Le relief serait plus précis parce qu'il serait, il ne serait pas mesuré par un être humain, mais par un objet technique qui échappe au commun des mortels. La représentation du relief, mais je vais passer là-dessus, ça va nous emmener trop loin, jusqu'à des choses plus contemporaines, mais dans un sens déjà presque un peu vieille, comme Google Earth, voilà le globe le plus détaillé du monde. Détaillé pourquoi ? Parce qu'il est entièrement produit par des machines complexes, donc c'est des assemblages hybrides de technologies, on ne sait même plus si c'est de la photographie ou de la 3D. La distinction s'estompe, notamment avec la modélisation, là c'est pas sur l'image, mais des villes, des reliefs urbains, où du coup... Il y a un mélange de 3D automatisé à partir de photographies, de 3D collaborative générée par les utilisateurs et aussi de plans satellites. Donc c'est une image composite, mais où du coup l'humain disparaît dedans. Un peu comme Google Street View aussi, on pourrait en parler. Donc il me semble que Google Earth du coup renforce bien cette idée d'objectivité cartographique qui peut remonter au XVIIIe siècle. Alors ça va encore plus loin, la cartographie, y compris dans des environnements entièrement numériques, comme les jeux vidéo. Ici, le jeu vidéo Watch Dogs, qui du coup met bien en scène des circulations de données appliquées dans l'espace urbain, donc un mélange de vues, de bâtiments, de tweets, de flux en temps réel. Et ça va assez loin, donc c'était ici un site événementiel créé par Ubisoft pour la sortie du jeu en 2013, où du coup on pouvait se balader dans Londres, et du coup ça aspirait les tweets en temps réel de personnes, pour du coup alerter la population, en tout cas les joueurs, de façon un peu ironique, sur les enjeux de vie privée et de circulation des flux. Alors du coup, j'en arrive à ce passage, via le détour du jeu vidéo, de Jacques Bertin à la représentation des données. Ça a été fait l'objet d'un entretien entre Annelise Renon, un designer, Stéphane Buallet, et Roberto Gimeno, dont je parlais auparavant, dans la revue Back Office, que j'ai cofondée, où du coup, ce qui est intéressant, c'est que les fondateurs du logiciel Processing, qui est incontournable dès qu'on parle de représentation de données, se sont directement inspirés, ou en tout cas font directement référence à Jacques Bertin dans leur travail. Ici, une capture d'écran de la première version de Processing qui tournait sur macOS, qui permet, si vous ne connaissez pas, de coder des formes par un langage simple dérivé du Java, qui simplifie ça en tout cas à destination des designers. Et dans la thèse de Ben Fry, donc, qui est un des cofondateurs de Processing, Bertin apparaît directement dans sa thèse soutenue au MIT en 2004. Dans l'article, cette fois plus récent, des deux fondateurs de Processing, Kazeriz et Ben Fry, cette filiation apparaît encore, et il parle même de voilà, un Prométhée moderne. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'article de Latour, qui ne porte pas exactement ce titre-là. Je ne sais pas s'il y a du Latour dans Processing, mais... Et voilà, donc cette citation qui me semble, fait écho à Bartin indirectement. Processing a été conçu pour créer des images. Le langage de programmation inclut des éléments spécifiques pour travailler avec la forme, la couleur, la géométrie, etc. Le processing comme langage normé et accessible, disons, potentiellement à tous, avec un minimum de connaissances techniques. Je vais passer sur la visualisation de données, parce que ça nous emmènerait trop loin. Donc, je vais faire un saut au culture analytique. C'est sans doute que David pourra nous éclairer sur cette brèche dans l'argumentation. Et va nous ouvrir à cette ambition de créer ou de recréer un réel détaché de subjectivité dans le champ des big data qui sont au cœur des culture analytics. Alors, les culture analytics ambitionnent de mettre en schéma, alors je ne sais pas trop comment traduire pattern, c'est toujours compliqué, j'aurais pu laisser pattern et m'en débarrasser. Motif, c'est pas tout à fait le même sens non plus. Donc j'ai mis mise en schéma, je ne sais pas trop comment faire mieux, des productions culturelles humaines. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette mise en schéma se ferait potentiellement sans intervention humaine. C'est ça qu'ambitionnent les culture analytics. Alors, elles ont été fondées, ou en tout cas revendiquées, par Lev Manovich, qui est artiste et théoricien des médias, informaticien, computer scientist en anglais, qui a une trajectoire intéressante. Il commence à se faire connaître par cet ouvrage, « Langage des nouveaux médias », qui est incontournable dans la théorie de l'informatique en 2001, où du coup, il fait directement le lien entre cinéma et informatique. Ensuite, il continue son travail en s'intéressant au pouvoir caché du logiciel dans cet ouvrage de 2013, le logiciel au pouvoir, en écho au titre de Siegfried Guédion, la mécanisation au pouvoir. Et donc plus récemment, il fonde ce nouveau champ, en tout cas qui se présente comme nouveau, des analytiques culturelles, si je les traduis en français de façon un peu brutale, qui du coup propose par une série d'expérimentations et d'expositions, donc en fait c'est pas très bien, c'est art ou science, de trier, de classer des productions culturelles humaines. Donc, je vais vous montrer deux exemples. Un premier exemple basé sur Instagram, PhotoTrails, qui du coup prend un peu le pouls des grandes métropoles mondiales et classe des millions de photos issues d'Instagram avec des caractéristiques visuelles moyennes. Donc, je présente ça rapidement pour en discuter si vous voulez. Et un deuxième travail un peu plus récent, Selfie City, donc toujours à partir d'Instagram, mais cette fois sur non plus les vues urbaines, mais les vues de personnes, qui du coup propose un peu sur le même principe de classer des selfies dans des villes au travers le monde et de pouvoir trier ces selfies sur des caractéristiques élémentaires en quelque sorte. Donc est-ce que la personne est joyeuse, regarde à gauche ou à droite, etc. Et on pourrait comme ça naviguer dans les images et mieux comprendre cette production d'images que Manovich définit comme culturelle. Ça aussi, on pourrait en débattre si vous voulez. Voilà, j'ai fait un entretien avec lui à propos de... Ça reste toujours compliqué pour moi à comprendre. J'ai un entretien inédit avec Manovich que j'ai mis dans les slides et que vous pourrez consulter, qui devait à la base paraître dans la revue Back Office, mais qu'on a enlevé parce qu'il nous a semblé que c'était un peu trop loin des enjeux de design graphique, en tout cas pour le lectorat qu'on visait. Du coup, Manovich, il est un peu ambigu, en fait. Il se défend d'essayer de modéliser la culture pour trouver des règles immuables, mais en même temps, c'est un peu ce qu'il fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça reste un peu confus. Voilà, et il veut se concentrer sur les différences et pas seulement sur les points communs. Mais pourtant, quand on regarde les productions, on est plutôt comme sur les points communs, le selfie qui regarde à gauche ou à droite, plutôt que sur les différences. On les voit pas trop dans les productions. Et il y a aussi l'idée chez Manovich de créer les catégories directement depuis les algorithmes, comme si ça pouvait s'auto-générer, ce que j'ai tout à l'heure en l'article sur la fin de la théorie, je crois que c'est de Marc Andreessen. Voilà, je ne sais pas si c'est possible du coup de faire croire que l'algorithme serait totalement neutre d'intention et qu'il pourrait lui-même créer des modèles scientifiques. Les culture analytics sont développés depuis, d'ailleurs c'est même l'objet d'une revue qui porte le même nom. Et voilà, dans une lecture déjà ancienne, en quelque sorte, de Christian Fauré, qui a travaillé avec Bernard Stiegler notamment, j'ai trouvé ça récemment, c'est intéressant, quand il fait la lecture des culture analytics de Manovich, pour notamment mieux les comprendre et essayer de lever les biais qui sont derrière, ce qui est intéressant, c'est que dans une deuxième partie de son article, il fait référence à qui ? À Bartin, de façon explicite. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, du coup, c'est pas fait exprès, enfin, en tout cas, j'avais pas cet article en tête quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Pour faire le lien entre Manovich, du coup, et cette classification du visible. Du coup, j'ai bientôt fini. Argosciences, bah, enfin voilà, on pourrait dire, ben, peut-être ce manque de rigueur pourrait être excusable. Je ne sais pas si je suis dans le bon terme. Si on prenait ça comme une œuvre d'art de façon un peu provocante. Il serait intéressant également de relire les cultures analytiques. Là, quelqu'un comme Christophe Leclerc pourrait nous aider à faire ça au prisme de la récente Digital Art History qui bouscule les catégories en l'histoire de l'art. Et puis toujours quand même cette idée du point de vue surplombant. Il me semble qu'on n'en sort pas dans cette culture analytique qui se revendique comme innovante ou nouvelle. Finalement, on peut retomber sur des schémas déjà vieux de la cartographie du 18e. Conclusion, bah peut-être qu'il serait utile pour ces personnes-là de relire des choses, des textes que j'évoquais tout à l'heure, comme celui de Harley sur « Déconstruire la carte » de 1989, où du coup Harley s'oppose à l'idée d'objectivité, en tout cas de neutralité de la carte, et propose de déconstruire dans une perspective... inscrite par exemple chez des personnes comme Derrida, les présupposés de la carte, les valeurs morales intrinsèques, etc. Ce que, dans un sens, Manovitch a commencé à faire dans le logiciel, mais qu'il oublie peut-être un peu quand il l'applique aux productions culturelles. Par exemple, il avait travaillé sur les présupposés de Photoshop ou de Microsoft Word, ce que je trouve intéressant, mais ça, c'était en 2001, et il me semble qu'il est dans autre chose, aujourd'hui. Bon, la citation de Harley, « Nous avons tendance à partir de l'hypothèse que les cartographes se consacrent sans équivoque à la production d'une connaissance scientifique objective. » Et voilà, en fait, pas du tout. Et ils incarnent bien des normes et valeurs sociales. Harley, voilà, est un peu plus incisif dans la suite du texte. Il propose de re-questionner la rhétorique scientiste des faiseurs de cartes. Il me semble que la rhétorique scientiste pourrait s'appliquer également aux cultural analytics, si vous me suivez dans mon raisonnement. Autre référence qui va dans le même sens, c'est que si Desbois, Donna Haraway, voilà, célèbre pour son manifeste Cyborg, propose dans cet article de presque la même époque, hein, 1988, de déconstruire l'objectivité scientifique du point de vue des théories féministes. Je crois que c'était intéressant. Et elle propose, par opposition, de s'intéresser au caractère situé, incarné des connaissances. Effectivement, le point neutre, c'est toujours le point de vue de celui qui énonce la connaissance. Et Haraway, du coup, propose de remettre ça en question dans le contexte difficile des États-Unis de la fin des années 80, avec les enjeux de domination de diverses sortes. Ce sera ma conclusion, du coup, cette slide, qui sont plutôt des questions, d'ailleurs, qui ne sont pas résolues de mon point de vue. Comment pourra révéler les failles de cette matisation du visible dans, du coup, le champ des big data? Qu'est-ce que ce serait, sans doute que David Bianic aura des idées, si on applique la catégorie de Haraway, qu'est-ce que ce serait une visualisation de données situées? Est-ce que c'est possible? Et du coup, une objectivité scientifique des productions culturelles est-elle possible, voire souhaitable, si on essaie de questionner l'ambition de Manovitch et de ses collègues? Voilà, merci beaucoup.
Bon. Question.
Remarque, est-ce que Benjamin Frey, parce que je ne me souviens plus, il cite Bertin explicitement ou est-ce
oui.
qu'il cite. Parce que, en fait, notamment aux États-Unis, c'est McKinley qui l'a beaucoup popularisé. Il a fait sa thèse d'ailleurs sur Bertin en complétant les variables de Bertin. Il a fait un travail utile pour rapprocher aussi sur un autre corpus. Et il me semblait que c'était souvent. On citait souvent Bertin à travers les reprises et les textes de McKinley, mais peut-être que c'est pas ce qui est...
Alors, pas dans la thèse de 2004, effectivement. Après, il y aurait une étude plus importante, plus conséquente à faire sur l'étage de Bertin aux États-Unis et la façon dont il est revenu en France, notamment par des designers graphiques, à mi-chemin avec l'UX. Mais dans la thèse de 2004, Ben Frey cite directement Bertin sans détour.
Traduit.
Bonne question.
Des articles.
Ouais.
Il y aura une étude à faire spécifique sur qui serait assez proche du coup de la French Theory, en quelque sorte, les jeux de déplacement culturel qui reviennent, mais chargés d'une autre signification, une fois, sur le continent européen.
D'accord.
Il y a la même chose dans les visas solistes, d'ailleurs, je pense.
Moi, j'avais une question à propos. Alors, je ne connais pas très bien ces cultural analytics. Alors, la question, c'était entre art et science. Alors, si j'ai bien compris, j'ai peut-être pas bien compris, hein, il essaye de produire un discours scientifique objectif à propos de production culturelle.
Exactement.
Bon, ouais. Alors là, je vois bien le côté scientifique, mais où est le côté artistique?
Ça prend la suite, ça prend la forme d'exposition, concrètement. C'est des expositions qui sont montrées dans des galeries et centres d'art.
Ah, d'accord, ok. Donc on voit des graphiques, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ouais. Il y a des murs d'écran et c'est exposé. Enfin, Manovitch se définit comme artiste à la base, Et du coup, ce qui est intéressant, c'est... Pardon ?
Je pense que c'est pas problématisé de manière scientifique, en fait. Parce que, comme on dit...
C'est ambigu. Il y a les deux, en fait, parce que ça produit des articles dans des revues scientifiques, mais à la base, ça part d'exposition dans des galeries. C'est toute l'ambiguïté que j'ai du mal à... Que j'ai du mal à...
Les images visuellement classées par ordre de... opérer des classifications. Normalement, ça répond à des enjeux scientifiques...
Bah là, je l'ai présenté de façon schématique, mais dans l'entretien que j'ai fait avec lui, il s'appuie quand même sur des auteurs comme cette sociologie statistique, comme celle de Bourdieu. Donc il y a quand même l'idée de relire cet héritage français dans ce que fait Malevitch, mais du coup, du point de vue des big data. Donc, là, ça nécessiterait une étude plus profonde, mais pour lui, il y a quand même un enjeu scientifique important. Ce n'est pas juste des caractéristiques formelles dans ce qu'il fait. Il y a une ambition plus grande, même si à la fin, ça peut se réduire à des choses plus simples.
Ce serait quoi l'objectif? Alors, c'est voilà, si vous avez pris deux exemples, les selfies et je sais plus.
Bah, essayer d'établir des moyennes visuelles, moi c'est comme ça que je le comprends, dans la production culturelle, d'établir des patterns dans ce flux de données qu'on a du mal à analyser.
En fait. Pardon? Nous on appelle ça faire de la fouille de données, hein. C'est comme c'est fouiller dans un cube de données, hein. Et sauf que là, le cube de données, c'est des données culturelles en fait.
C'est ça.
Moi j'ai l'impression que ce qu'il retire de scientifique, enfin Manovitch, son approche, enfin ce qui la manière dont il a de la caractériser comme une approche scientifique, c'est qu'il est dans la quantification et il estime que c'est la quantité qui va l'amener à atteindre quelque chose de l'ordre de d'une vérité.
Exactement.
Et du coup, je trouve que ton intervention est hyper intéressante dans le lien que tu fais entre ça, Bertin, et la cartographie effectivement au 18e, avec ce rapport à une généralisation, à une quantification qui fait qu'on cherche la vérité dans un volume, dans un gros volume, en fait.
Et dès que la quantité fait vérité, ce qui est, on pourra en discuter, mais...
Il y a plein d'études qui ont prouvé
c'est c'était plus compliqué que ça, ouais. Et c'est pour ça que les tours par Crosby me semblent intéressants.
Les histoires de seuils statistiques, c'est extrêmement discuté, hein, c'est pas du tout partagé. Surtout que quand on fait du scrapping, qu'on aspire, par exemple, même quelque chose d'hyper exhaustif, c'est que du déclaratif.
Ça veut dire. Il y a plein de biais possibles à plein d'endroits, quoi, dans ces types de démarches.
Alors, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas compris, mais je ne suis pas très versée là-dedans. En fait, l'idée, ce serait que, si j'ai bien compris, que les algorithmes... Alors, non seulement il n'y aurait pas d'intentionnalité derrière, ce qui me paraît bon, mais après, les algorithmes pourraient produire par eux-mêmes...
Les catégories.
D'autres algorithmes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est les enjeux du deep learning.
Oui, c'est ce que je...
Ouais, qui est une sous-catégorie de l'IA.
Oui. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'intentionnalité. Enfin, au départ, il y a peut-être une intentionnalité au départ. Et ouais. Je ne sais pas du tout comment ça marche.
Il y a quand même des règles.
Alors, le deep learning, il y a deux...
Il y a des règles quand même qui vont construire des connaissances qu'on ne connaît pas. Mais il y a quand même quelqu'un qui les écrit.
Alors, c'est dans le cas du deep learning, c'est vraiment ambigu. Enfin, il y a deux catégories d'IA, les IA symboliques, les IA connexionnistes. Les connexionnistes étaient celles à la base avec Turing, mais sont revenus en force dans les années 90 via ce qu'on appelle le deep learning. Et il y a quand même... On écrit des vecteurs, mais il y a quand même l'idée que les algorithmes soi-disant auto-apprenants peuvent eux-mêmes écrire d'autres règles et se transformer eux-mêmes. Donc l'idée de l'intentionnalité, elle est à la base, mais une fois que le programme se réécrit, est-ce qu'elle persiste? Là, c'est toute l'ambiguïté. C'est au cœur des théories actuelles. Hein. Et disons que ça crée un effet de boîte noire par ricochet qui fait que plus personne ne sait comment ça marche, y compris le programmeur. Du coup, il y a peut-être une intention au départ, mais qui après disparaît dans cette idée presque de génétique informatique.
C'est assez curieux, parce que dans l'ensemble de ce qu'on voit dans le travail de Manovitch, c'est qu'il y a, dans ce qu'il analyse, il y a des intentions qui sont plus ou moins obscures, enfin masquées, disons, à plein d'endroits. Enfin, le simple fait de partir de selfie, c'est déjà une forme très normalisée de prise de photographie qui est déjà, c'est pas la photographie en règle générale. Non,
complètement.
C'est déjà une forme très standardisée. Donc,
oui, parce qu'il part du présupposé qu'il y a un marqueur culturel dans ses productions, donc c'est quand même très guidé quand même.
Ouais.
C'est pas n'importe quel corpus, effectivement. Un certain corpus de photos.
Ouais. Bah, ça surfe aussi sur un effet de mode. Je pense que voilà, le selfie, depuis quelques années, c'est quand même au cœur des enjeux de beaucoup d'études visuelles. Et ça lui permet aussi d'obtenir des financements de façon assez simple, il ne faut pas se mentir. Hein. C'est aussi stratégique de ce point de vue-là. C'est des programmes qui coûtent très cher. Et quand vous parlez d'Instagram, c'est peut-être plus sexy que de parler d'un vieux corpus d'un musée dont tout le monde se fiche.
Ouais, Ça, faut pas dire ça.
Bah non, mais du point de vue qu'on veut trouver de l'argent, il faut mieux être dans ce type de ouais, recherche.
C'est sûr.
Faut pas être hypocrite par rapport à ça.
François.
Oui, non, je voudrais toucher sur Manovic. J'avais vu quelque chose de lui. Il présente une analyse, alors, selon le même principe que vous avez dit, de tableau d'un peintre, par exemple. Et alors, bon, la question que je pose, puisque vous avez étudié ces choses, moi, je n'ai pas compris. Il pense arriver à quoi exactement? Parce que, alors, effectivement, on peut prendre Van Gogh et avoir toutes les variations de couleurs, en prenant toutes les couleurs, etc. etc. Mais ça mène à quoi exactement? Ni du point de vue scientifique, ni du point de vue esthétique, ni du point de vue de l'histoire de l'art, ça mène à quoi? Une palette gigantesque de données, mais...
Je ne suis pas là pour faire sa défense, vous l'avez compris. Mais je partage votre interrogation, à vrai dire. Je ne vois pas à quoi ça sert.
Oui, c'est ça.
Du point de vue, moi, qui viens plutôt l'esthétique, je ne vois pas ce que ça nous apprend sur l'esthétique.
Au départ, je me dis, oui, il y a une idée qui est intéressante, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il est impossible de comprendre ce qu'on peut bien en faire.
Ah, il me semble que ça produit une espèce de rhétorique machiniste.
La question du sens disparaît, bien sûr.
Non, ça produit, pour moi, ça produit une rhétorique du calcul. Mais ça ne produit pas des enjeux scientifiques relatifs à l'esthétique, autre chose.
Si c'est expérimental, c'est scientifique.
Ça, ouais, disons que le caractère expérimental permet
parce
de...
Parce qu'il y a un ordinateur, en fait.
Ouais, c'est ça pour moi. En fait, ça produit quoi? Si ça peut produire des choses comme ce qu'on appelle l'art neuronal. C'est quand vous avez créé un énième Rembrandt à partir des anciens Rembrandts. Bon, ce que je ne trouve pas très intéressant du point de vue artistique, mais ça peut produire ce genre de choses, pour essayer de vous répondre quand même. Une espèce d'automatisation de la production visuelle. Pour moi, ça tend vers ça, en fait. On pourra produire des cas moyens, vous allez produire une énième chaise, un énième vêtement, sans intervention humaine et sans payer un designer ou un artiste. Peu importe que ce soit, disons, facteur moins 10 ou moins 100 en termes d'intérêt, parce que ce sera aussi 100 fois moins cher à produire. Enfin, en tout cas, ça reste à discuter parce que ça coûte cher. Mais il y a quand même l'idée que le calcul puisse se réduire et qu'on puisse automatiser petit à petit la production culturelle. Ce n'est pas explicité dans ces textes, hein, mais c'est la lecture que j'en fais. Et après, de revendre ça comme des services à des entreprises ou à des agences. Donc on bascule du coup du scientifique au commercial. Mais bon, aux États-Unis, la distinction entre les deux est assez ténue. Donc, c'est pas trop un problème pour ces gens-là.
Mais c'est un peu dans la même veine aussi le travail des gens du Density Design Lab au Polytechnico de Milan, où ils essaient d'instrumenter en gros les humanités avec évidemment d'autres outillages qui permettent justement d'avoir des. D'avoir des photographies grand angle en fait, des espèces de vues surplombantes, ultra surplombantes, où on peut justement repérer. Des groupes, des ensembles
clusters,
qui sont homogènes, etc. Éventuellement des portions qui seraient à l'interstice de deux communautés, etc. C'est-à-dire d'avoir cette capacité à voir, et ensuite, quel est le travail d'analyse derrière? C'est là où tout est discutable, c'est qu'une fois qu'on obtient ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? On est d'accord. Mais ce qu'il soutient souvent, c'est de dire, voilà, on a là la capacité à rassembler des quantités de données qui nous font apparaître, qui nous font voir des choses qu'on n'avait pas la capacité de voir jusqu'alors. Et du coup, voilà, comment on infère, comment on déduit, comment on travaille sur cette base-là, c'est là où, à mon avis, il y a des points plus discutables.
Il parle de cluster, mais justement, en fait, il ne dit jamais comment lire ces images-là. Moi, c'est ça le danger. Enfin, le sens ne peut pas être automatisé. Enfin, c'est Jean Lassec qui dit ça à propos de Turing, le sens émerge de la lecture. Enfin, voilà. Certes, on peut créer plein d'œuvres d'art, mais ce qui fait peut-être faire œuvre d'art, c'est dans la réception. Mais Manovic ne me dit rien de cette réception d'images, on ne sait pas comment les lire au final. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Alors, ça crée des choses très impressionnantes, on peut naviguer dans des murs d'écran, mais au final...
Et on peut dire aussi qu'il y a plusieurs occurrences, plusieurs versions de ces productions, parce que Manovic utilise un certain nombre d'éléments de projection graphique assez classiques dans leur format, etc. Et puis ensuite, s'il y a des dérivés, quand il collabore avec Maurice Stéphaneur et d'autres, il y a des productions qui, effectivement, comme dit Anthony, vont devenir des pièces artistiques, qui vont être montrées comme telles, mais il y a toute une génération de transformations, en fait, des productions, et il y a des dérivations, en fait, possibles dans ce qui est produit. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, c'est interrogeant aussi, de savoir quelle est la nature de tout ce qui est produit, et les destinations multiples de ces mises en graphique.
Donc voilà, on peut lire ça comme une œuvre d'art, mais c'est vrai que quand on s'interroge du point de vue de Bourdieu ou de cette vieille histoire, ça devient plus compliqué, quoi. Presque, ça veut dire que l'art peut faire n'importe quoi. Ce serait aussi trop grossier de dire ça.
Non, mais ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs qu'un scientifique, quoi.
Bah là, il y a les deux. Du coup, c'est là où ça devient compliqué à lire.
Un compris, la recherche sur le plan algorithmique, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, peut être caractérisé de scientifique, parce que ça peut servir, enfin,
à d'autres choses.
La manière dont il développe les interfaces et les algorithmes, cette partie-là, effectivement, si elle est reproductible, s'il diffuse bien tout, et si c'est réplicable, ça peut prendre, il peut y avoir des modalités objectivantes là-dedans à trouver.
C'est ma lecture, ouais, c'est que ces algorithmes après peuvent servir à bien d'autres applications.
Voilà, c'est ça, c'est à partir, c'est quelle partie
mais lui, il ne fait pas de la science.
Parce que ceux de Milan, ils ont une problématique spatiale dans leur production.
Oui,
ils ont une problématique spatiale au départ. Enfin, ils ont quand même des. Ils
ont et surtout, leur travail est assez circonscrit. Ils font en fait des instruments à destination des chercheurs et ils n'ont pas tout le temps vocation à essayer d'être ceux qui les exploitent seuls. Voilà, ils travaillent beaucoup en collaboration. Donc c'est vrai que...
Ils ont un certain nombre d'hypothèses spatiales pour construire leur truc.
Et oui, c'est vrai.
Bon.
Bon, bah écoutez, je propose de clore là
merci.
Cette matinée. Merci beaucoup. Hein.
C'était fort très bien.